Et on est de retour sur les ondes de Choc FM à l'instant, on écoutait Indigenize et justement pour évoquer, continuer d'évoquer aujourd'hui à la suite de ces nouvelles découvertes macabres, 182 nouvelles tombes non identifiées près d'un ancien pensionnat autochtone. J'ai le plaisir de rejoindre celle qui anime tous les mardis soirs à 19h l'émission Ici Indie sur les ondes de Choc, c'est mon ami José Prou. Bonjour José.
Bonjour Guillaume.
Ça va bien?
Ouais. Oui et non.
Oui et non, j'imagine. Alors peut-être je veux, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, préciser que toi-même tu es métisse, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux te présenter pour les auditeurs?
Je suis Abénakise et française là, c'est mes origines, oui.
C'est ça.
Du Québec, ouais, c'est ça. Du Québec, du Vermont. Toute cette région-là, en fait, c'est pas simple. C'est à cause de la conquête et tout. Ça a mélangé les cartes avec... parce qu'on sait bon que c'était francophone, c'était ouais, français. Ouais. Puis après, c'est passé aux mains des British. Et puis, entre ça, ben la tribu de mes ancêtres ont essayé de départir tout ça. Alors, c'est pas simple.
Alors, j'imagine qu'après les découvertes de Kamloops et celle de Marieval, là, cette annonce aujourd'hui de nouvelles tombes découvertes sur un autre pensionnat autochtone, ça doit être quelque chose de très dur. Il y a beaucoup de gens qui sont sous le choc au Canada et évidemment, oui. Les personnes qui sont les plus touchées sont les autochtones et à raison. Comment est-ce que tu ressens ces découvertes? Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le sujet?
Oui, en fait, c'est très difficile à recevoir, bien entendu, parce que c'est des choses qui avaient été soulevées déjà lors de la commission sur la vérité et réconciliation. Il y avait eu des survivants qui avaient apporté leur témoignage et malheureusement, et après la commission avait donné une série de recommandations,
oui,
qui n'a pas été tellement suivie. Ça a été, ils ont recommandé des trucs quoi, aux grandes corporations, aux grandes institutions. Bon, bien entendu, aux églises,
oui,
au gouvernement, à la GRC et tout. Et puis, ça a été, je ne peux pas dire que ça s'est fait de façon vigoureuse, disons. Voilà, je pense que le mot que je cherche, c'est vigoureuse.
Ouais.
Et en fait, bon, tu parlais de Kamloops. Maintenant, aujourd'hui, il y a les nouvelles de Marieval, mais il ne faut surtout pas oublier Kawasses, où on a trouvé 751 corps. Donc, si on fait le décompte maintenant, 215, 751, et puis maintenant, à partir de depuis aujourd'hui, 182. Et en fait, je ne sais pas si les auditeurs ont déjà vu la carte géographique de tous les pensionnats autochtones à travers le Canada. Il y en a une tonne. Et là, on parle que de... Ouais,
oui,
il y en a
énormément. On peut se rendre, ouais, sur la page Wikipédia Pensionnat autochtone au Canada. On peut en retrouver la liste exhaustive et c'est vrai que c'est assez impressionnant de se rendre compte à quel point ils ont été nombreux. Je crois qu'il y a plus de 150 000 enfants qui seraient passés à travers ce système pendant tout le fonctionnement jusqu'à la fin des années 90. C'est quand même très récent.
Oui, voilà, ça a duré beaucoup trop longtemps, malgré les plaintes, le gouvernement faisait la sourde oreille, l'Église faisait la sourde oreille. Bon, maintenant on peut parler de, ben moi je dirais complot. J'ai pas peur de dire le mot complot parce que si on regarde historiquement ce qui s'est passé, l'Église se propose, le gouvernement acquiesce et la GRC va ramasser les enfants. Alors, il y a un peintre extraordinaire, métis, Kent Monkman, qui a fait des trucs vraiment fabuleux pour parler justement en image de toute cette situation. Et quand j'ai vu, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ça, c'est justement les œuvres de Kent. Et c'est affreux parce que c'est ça, le Canada, c'est un beau pays. Quand on regarde pas comment il a été bâti, d'où il est venu. Parce que, bon, si on regarde historiquement, quand les Français étaient au Canada, et je dois le dire, la relation avec les Autochtones était beaucoup, beaucoup meilleure que la relation qu'ils ont eu avec les British.
Oui, ben, en fait, alors ça, côté, c'est vraiment un fait historique qui est aujourd'hui reconnu par beaucoup d'historiens. Hein. Les relations étaient, en règle générale, beaucoup plus pacifiques, on va dire, à quelques exceptions près, quand même.
Voilà. Et disons que la sauce s'est gâtée quand les problèmes politiques de la France et de l'Angleterre se sont propagés à l'Amérique. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des bains de sang. C'est là qu'il y a eu des représailles de part et d'autre, des maisons brûlées, et puis des kidnappings, des meurtres. Voilà, et comme toute bonne guerre. Mais c'est ça. Puis les British, ils mettaient la sauce. Et c'est pour ça, puis j'aimerais souligner, si on regarde tous les pensionnats, la carte des pensionnats, la plupart d'entre eux sont de langue anglaise. Je suis désolée, mais on doit le noter.
Ouais.
Et puis les gens, il n'y a pas eu tellement, parce que du côté de la côte Est, où il y a beaucoup d'Autochtones francophones, comme le premier contact s'est fait avec les Français, il y a eu une certaine forme de... acculturation, je dirais pas assimilation, acculturation. Et puis, ce qui a fait que il y en a beaucoup qui sont convertis au christianisme, soit au catholicisme ou autre. Et donc, les fameux l'Église protestante et l'Église catholique anglophone s'en est pas pris à eux, si on veut. Et c'est concentré sur les gens qui étaient encore plus traditionnels, si on veut, malheureusement. Et c'est gênant quand c'est nos origines de voir ce qui s'est passé avec nos frères.
Absolument. Et ce que tu dis est encore plus vrai. Aujourd'hui, en 2021, on pourrait penser que le Canada avait largement réussi à faire une sorte de transition et justement une réconciliation. La Commission Vérité et Réconciliation, ça a été créé, je crois, en 2008, mais en réalité, on a l'impression qu'il y a encore, si tu me permets cette mauvaise expression, beaucoup de cadavres dans le tiroir, et c'est un secret un peu, il y a beaucoup de secrets honteux là que l'on découvre ou que l'on semble redécouvrir progressivement sans que personne n'ose véritablement prendre ses responsabilités. J'imagine, puisque le système de pensionnat a perduré jusqu'en 1997, j'imagine qu'il y a encore des gens qui sont aujourd'hui bien vivants au Canada et qui ont des responsabilités, peut-être même du sang sur les mains. Est-ce que tu penses qu'on est en train de vivre quelque chose, le début d'un grand mouvement? Est-ce que tu penses qu'on est en train d'ouvrir avec ces découvertes successives, malheureusement, est-ce que tu penses qu'on va enfin réussir à parler de ces problèmes ouvertement et à les mettre sur la table pour partir sur des bases plus saines maintenant?
J'espère que oui. C'est mon souhait. Mais malheureusement, si on regarde historiquement comment ça se passe avec l'Église catholique, on a qu'à penser... aux pédophiles, plein. Il y a eu l'Église presque depuis sa fondation a été la scène de plusieurs scandales. On le sait. Il y a eu. On a qu'à penser à l'Inquisition. Ok, ça fait très longtemps, mais c'est quand même. Ils ont continué avec ça après les pédophiles, d'autres trucs, la façon dont les femmes sont traitées dans l'Église catholique. Je pourrais raconter tout plein d'histoires parce que j'ai de la famille qui était dans les ordres et puis qui sont sortis parce que en fait les dessous de l'Église catholique c'est pas très très joli. Ouais.
Ah oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui même au Québec notamment, il y a des citoyens qui demandent à se faire débaptiser en ce moment en raison des problèmes autochtones, justement, de ces personnes autochtones, qui demandent donc carrément à tourner le dos à l'Église.
Ah oui. Puis je veux dire avec raison. Il faut que l'Église fasse amende honorable. C'est drôle parce que en fait, l'Église catholique, c'est l'Église qui est la plus portée sur le pardon et puis supposément et puis la confession et tout. Puis si on regarde, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Non, malheureusement, c'est ça. Je crois pas. Mais en fait, ce qui est très très beau, on va se concentrer sur ce qu'il y a de positif dans l'actualité maintenant. Moi, ce qui me fait vraiment très très chaud au cœur, c'est de voir mes frères et mes sœurs se réveiller et crier haut et fort qu'ils sont là. Et fiers de qui ils sont, il y a comme une une renaissance, c'est pas autre chose. Et puis c'est les ancêtres. Moi, ces enfants-là, pour moi, c'est le symbolisme. C'est les ancêtres qui crient et puis qui encouragent les générations, la septième génération, les gens là, maintenant de ma génération, et de dire allez, on est là, on y va, on prend sa place. Et c'est ça qui est merveilleux. Je pensais jamais vivre ça de mon vécu. Et puis je suis sûre qu'il y a tout plein de gens qui sont fiers de ça. Il y a des mouvements culturels, il y a des mouvements dans la musique, dans les affaires, il y a au niveau aussi des réclamations de territoire et tout, il faut comprendre que la culture autochtone, c'est lié directement à la terre. À cause de la réappropriation de la cuisine autochtone, des rites, de la façon de vivre simplement. C'est très difficile de vivre, d'être autochtone et de suivre la façon, le mode de vie traditionnel et puis de vivre en milieu urbain. C'est presque impossible, très difficile. Alors, c'est lié directement aux réclamations territoriales. Et j'espère vraiment voir... En fait, je vais vous dire, moi, ce que je souhaite que l'Église catholique fasse et le gouvernement canadien, ce qu'il fasse pour comme réparation dans cette situation-là, ça serait très, très simple. Vous savez que la couronne possède des milliers de kilomètres de territoire qui sont juste pour la couronne. Donc, et la même chose pour l'Église catholique. Ils ont tout plein de propriétés. Ils ont du terrain, des terrains partout. Alors, comme si on associait ces deux idées-là ensemble et puis que le gouvernement et l'Église disaient « OK, c'est bon, on vous donne des territoires, on vous donne des terres », ça serait merveilleux parce que l'argent, c'est bien beau, mais vous savez, on vit dans un moment, dans une civilisation, dans une société où l'argent, il y a de la spéculation. Oui. Si je vous donne 100 $, ça se peut que la semaine prochaine, le 100 $ valent moins si je veux acheter du terrain. Alors, c'est pour ça que je dis, il faudrait que ça soit directement des terres qui soient données.
Et quand tu dis donner, ça serait plutôt, si on veut avoir la terminologie juste, rendre plutôt.
Ben oui, ben en fait, eux, là, il y a toute la question juridique de dire, en fait, il y a eu certains traités, mais là, pas vraiment. Alors, on pourrait se perdre là-dedans, parce qu'au niveau juridique, justement, la loi sur les Indiens, et puis je voulais vous parler de ça aussi, la loi sur les Indiens et toutes les lois qui ont été passées, c'est du vrai cafouillage, c'est n'importe quoi. Je sais pas si les auditeurs savent que la loi sur les Indiens, c'est d'inspiration britannique d'avant la fondation du Canada. Le Canada a été fondé en 1867. Et il y avait la première loi, en fait, qui était The Affranchisement Act, c'était en 1857. Qui après a été, The Gradual Civilization Act en 1857. Après, il y a eu le Gradual Enfranchisement Act en 1869, donc 2 ans après la création du Canada. Et celle-là, c'était le Enfranchisement Act était terrible parce que là, le gouvernement s'est donné le droit de décider de la bonne moralité des Indiens et de qui recevrait des privilèges ou pas. Et dans le cas, disons, d'une veuve, si son mari décédait, on regardait comment il vivait et puis si ça nous plaisait, bon, tu gardes tes enfants. Si ça nous plaisait pas, on enlevait les enfants, tout simplement. Après ça, il y avait aussi, on a commencé à attaquer les pouvoirs des conseils de bande. On a limité le droit des femmes parce que culturellement, les femmes, ils sont égales aux hommes dans la culture autochtone. Oui. Et là, bien entendu, il y a eu tout ça, ce filtre-là. Puis après, il y a eu la loi sur les Indiens. Et là, c'était le début justement des pensionnats. Il y a eu les réserves qui ont été créées. Après ça, les gens qui devenaient des citoyens canadiens à part entière, là, il fallait qu'ils se renomment et qu'ils prennent des noms européens. Il y a eu tout plein de trucs. Avec les conseils de bande ont été imposés, il y a eu des interdictions pour les potlatches et puis d'autres cérémonies religieuses traditionnelles et puis sociales aussi parce que les potlatches et d'autres cérémonies c'était des moments de rassemblement où on échangeait et tout, mais là c'est ça, le gouvernement se sentait menacé de ces choses-là, alors il voulait absolument détruire la culture. C'est un peu, si on fait le parallèle avec les francophones au Québec, c'était ça aussi. Le gouvernement britannique, il s'y prend toujours de la même manière. Il s'attaque à des trucs. Il va attaquer la langue, il va l'imposer, il va comme en vrai colonisateur.
Acculturer complètement les populations, les déposséder à la fois de leur identité, de leur langue, de leur culture, de leur religion et de tout ce qui fait leur identité.
Voilà.
Alors, merci José pour ton analyse. On espère que ce n'est que le début d'un grand mouvement de prise de conscience générale au Canada pour que le Canada regarde en face son histoire et en tire les conclusions qui s'imposent pour l'avenir. Pour finir sur une note plus positive, je crois que tu vas nous proposer quelques extraits musicaux pour amplifier les voix autochtones aujourd'hui, puisque demain c'est la fête du Canada. Beaucoup de villes d'ailleurs ont décidé un petit peu en hommage de ne pas fêter la fête du Canada face à ces découvertes de tombes dans les anciens pensionnats autochtones et donc plutôt de favoriser eh bien une journée de réflexion sur ces problématiques. Quels sont entre guillemets tes coups de cœur pour ce jour?
Ah bien, voilà, il y a Jakota qu'on écoutait tantôt avec Indigenize, il y a Bookie the Beat, I Don't Know More, il y a Bloodline de Cody Coyote, il y a Working for the Government, le mix avec Buffy Sainte-Marie, il y a Land Back avec Alexia, Superman aussi, faut pas oublier Superman, Itchik, Neon Native, Sacred Indigenous, il y a Revolution, Firekeepers, C'est de Joey Styley que j'aime beaucoup. Il y a, si on regarde, si vous allez sur le site de mon émission, il y a la liste et aussi sur Instagram, il y a le playlist que je propose pour aujourd'hui.
Voilà l'émission ici Indie avec José Pro sur les ondes de Choc FM 105. Alors on va écouter tout de suite Working for the Government avec Buffy Sainte-Marie. Merci beaucoup José.
Chez Léonie, Guillaume, merci beaucoup. Ciao, ciao.